Galates chapitre 2, les versets 16 à 21. Ce texte, avouons-le, a été souvent mal compris, mal interprété, avec une lecture simpliste et même réductrice. Ce qui attire tout de suite l'attention dans ce texte, c'est le sens de la loi de Moïse. C'est quoi cette loi de Moïse dans ce contexte ici? Et je souligne bien dans ce contexte, parce que la signification du mot « la loi de Moïse » peut avoir beaucoup de sens différents. Et pour le savoir, il suffit de jeter un coup d'œil dans les versets précédents de notre péricope, même si on ne l'a pas lu. Je vais vous inviter à lire les versets 11 à 15 et je vais le lire au nom de Jésus. Ici, Paul s'oppose à Pierre à Antioche. Mais lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, elle s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Et ensuite, la suite de notre texte tout à l'heure, « Et nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. » Donc nous pouvons voir Pierre qui a été décrié comme hypocrite aux yeux de Paul, le grand Pierre. Et il a été répréhendé par le dernier apôtre, celui qui ne mérite même pas d'être appelé apôtre, Paul. Pourquoi ? Parce que Pierre était venu dans la communauté d'Antioche et mangeait avec les frères non-juifs. Et là, il se sentait bien, à l'aise, il mangeait, il parlait, il discutait avec les gens, dans la communion, dans la joie. Tout à coup, lorsqu'arriva quelques personnes venant de Jérusalem, envoyées par Jacques, pour rejoindre Pierre dans cette communauté, parce qu'il y avait eu un synode à Jérusalem où il fallait trancher entre les problèmes de la communauté jérusalémite et la communauté paulinienne, tout à coup, Pierre, il a changé de comportement. Il se retira brusquement et prit ses distances avec les frères non-juifs. Pourquoi ? Par peur d'avoir des mots durs de la part de ses propres frères jérusalémites. Voyez-vous l'hypocrisie et la piété, la fausse piété de Pierre. Il est bien dit que ces gens-là, et c'est bien souligné dans le texte, des incirconcis. Et en voyant cette attitude de Pierre, Paul s'est levé et s'est opposé ouvertement à lui. Donc ici, quand Paul parle de la loi de Moïse, ce n'est pas toute la loi, ce n'est pas tout le décalogue qu'il faut considérer, mais il était question de la loi sur la circoncision, parce que c'était le problème ici. À cause de la circoncision, les murs se sont dressés entre les communautés chrétiennes. Je dis bien chrétiennes. Il y a ceux qui disent qu'il faut être circoncis, même si on est chrétien. Il y a un courant qui dit non, on n'a plus besoin de la circoncision. C'est la grâce qui est le plus important. Alors les murs se sont dressés entre les frères et sœurs en Christ. Et Paul va très loin dans son explication que cette loi tue, dit l'apôtre Paul. Et effectivement, elle tue cette loi parce qu'il faut se rappeler que cet apôtre faisait partie des défenseurs farouches de l'observation de la loi quand il était encore Saül. Il faisait partie du clan des Gamaliel, les plus durs, les extrêmes, les passionnés de Dieu, si on peut le dire. Et il menait des campagnes d'extermination des chrétiens juste à cause de cela, de cette loi de Moïse. D'ailleurs, il faut le savoir, le mot pharisien veut dire séparé. Alors la circoncision qui au départ a été instaurée par l'Éternel, bien sûr, à Abraham, quel était le sens de la circoncision ? Au tout début, elle avait pour but de faire une alliance avec Dieu. Or, les Juifs l'ont changé comme un motif de séparation. Vous voyez la différence ? C'était un moyen de grâce, d'alliance, et c'est devenu une source de séparation, de division, et devient un mur de séparation, et cela crée la mort entre les frères et sœurs en Christ. Donc la forme extérieure, parce que c'était la forme extérieure, la circoncision, la forme extérieure de piété, chers frères et sœurs en Christ, ne doit pas être un obstacle de communion entre nous frères et sœurs en Christ. La piété est quelque chose de positif, certes, parce qu'elle est une forme d'expression de notre dévouement et de notre attachement à notre Seigneur. Si cela nous pousse dans cette forme de piété, elle est bonne, elle est positive. Mais à partir du moment qu'elle devienne un instrument d'exclusion de l'autre, alors là, elle devient comme la loi de Moïse qui tue. La loi de Moïse qui ne donne pas l'alliance. Elle devient un déclencheur de la mort. La piété devrait être une histoire personnelle que nous avons envers Dieu. Chacun doit avoir une histoire personnelle. Et c'est en fonction de cette histoire personnelle que nous développons nos formes de piété. Moi, j'ai ma forme de piété envers le Seigneur que je vous ne dirai jamais parce que c'est une histoire entre moi et le Seigneur. Mais à partir du moment que je vais dogmatiser cette piété et que je vais imposer cela à ma communauté, elle devient une source de séparation. Elle ne doit pas être un problème dans notre relation avec les autres qui ne partagent pas mon conviction sur cette piété. Et je vais revenir aux deux exemples que j'avais mentionnés au tout début du culte. Et ces deux exemples sont donnés même par Jésus dans les évangiles. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, il dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Parce que les Juifs avaient eu cette attitude-là est bizarre, comme quoi ce texte tombe bien au moment de nos frères musulmans qui font le ramadan actuellement. Ça tombe au bon moment. Et si nous faisons à nous aussi des jeûnes, ne soyons pas tristes pour que les gens savent que nous jeûnons, dit le Seigneur. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense, ces gens-là. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent même pas compte que tu jeûnes. Et seul ton Père qui est là, dans le secret, je souligne bien ce mot-là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Et la deuxième exemple, dans Matthieu 6, 3, quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Donc, dans ces deux exemples, nous pouvons constater que ces formes de piété sont des manifestations de la bonté de Dieu en nous et qui rayonnent et ne doivent pas en aucun cas devenir un poids pour les autres. Et le mot secret revient à chaque fois ici, personnel, titre personnel. D'ici quelques semaines, nous serons en vacances, quand nous serons chez des amis, des familles. Parfois, nous avons des attitudes déplacées. Même si je suis pasteur, même si je suis issu d'une famille chrétienne, si je vais vers les autres, je ne dois pas imposer ma vie spirituelle chez les personnes où j'y vais. Parce que je suis pasteur, il faut prier à table maintenant. Mais si la personne qui m'accueille n'a pas l'habitude à faire cela, je le fais dans mon cœur. Ce n'est pas par crainte, mais juste par respect. Et justement, c'est cette initiative, le fait de dire que c'est une histoire personnelle. Mais maintenant, si je suis chez moi et que je reçois des gens, alors là, je peux leur dire, on a une façon de faire vivre dans cette maison. Et on invite les gens à prier avec nous. Ça, c'est juste un exemple. Donc, à nous de voir comment nous témoignons devant les autres. En d'autres termes, celui ou celle qui ne peuvent pas encore faire comme moi ou toi ne doivent pas être jugés et considérés comme des chrétiens amoindris. Parce que c'était un peu dans ce sens-là que Pierre a été blâmé par Paul. Nous ne devons pas vivre notre foi par rapport à l'autre, mais uniquement par rapport à Dieu. Nous parlons toujours de la grâce, et tout le monde le dit par la grâce de Dieu. Mais qu'en est-il réellement ? Ici, dans notre texte, la grâce s'explique surtout dans le fait que la foi prime et prend le dessus, et surtout nous rend égaux devant les yeux de Dieu. C'est ce que Galate vient de dire. C'est la grâce. Quand Dieu regarde quelqu'un, il le regarde par sa foi, mais pas par sa piété. Alors celui qui a décidé d'être circoncis pour le Seigneur, dans le contexte ancien, n'a rien de plus que les incirconcis. Et donc à notre niveau maintenant, aujourd'hui, à notre niveau respectif, ta façon de montrer ton amour, ton attachement à Dieu, doit rester dans le cadre personnel et privé. Mais l'impact de cela touchera et apportera du bien aux autres. Il y a des gens, je vais vous donner l'exemple, il y a des personnes qui ne le disent pas et on ne les voit même pas, mais ils sont discrets quelque part. Je connais quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui passe des nuits entières à prier, qui le faisait, mais il ne le disait jamais à personne. Et personne ne l'a su. Mais il a senti quand il était appelé pour prier pour les autres pendant des nuits et des nuits pour sa communauté. Et quand on a vu le fruit, le résultat, c'est là qu'il a rendu un témoignage. Et tout le monde loue le Seigneur. Voilà la piété que Dieu veut. Et donc, voyez à ce moment-là, cette forme de piété fait du bien à lui, bien sûr, mais aussi et surtout aux autres. Et c'est pour cette raison que nous ne devions pas prendre la place de Dieu en imposant aux gens qu'ils doivent faire ceci ou cela pour Dieu. Toujours dans nos premières relations avec les gens qui commencent à venir tout doucement vers le Seigneur, faisons très attention dans notre système d'approche. Il y a toujours des étapes avant d'arriver à la maturité. Ne brusquons pas les choses. Ne brûlons pas les étapes. Cela doit venir de lui-même, de son propre cœur. Ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu ne nous rend pas passifs, bien sûr. La grâce de Dieu ne nous rend pas oisifs vis-à-vis des autres. Parce que si une personne ne se sent vraiment touchée par la grâce de Dieu, il ne pourra jamais le contenir à lui seul. Parce que c'est un feu qui brûle. Tu ne peux pas le garder à toi. Tu dois le partager aux autres. Mais maintenant, ta façon de le partager aux autres, c'est là qu'il faut faire très attention. Cette grâce va nous pousser à faire quelque chose. Et là, ce sera une histoire entre la personne et Dieu, mais pas un autre tiers. Pour résumer tout ce que j'ai dit, la question que nous devons poser à nous-mêmes est la suivante. Qu'est-ce que je ferai ? Qu'est-ce que je ferai pour Dieu parce qu'il m'a sauvé ? Et non, qu'est-ce que je ferai pour Dieu pour être sauvé ? Et pour clore cette méditation, j'aimerais partager avec vous ce qu'a dit un certain monsieur Christian Grapp. Voilà ce qu'il a dit. Le salut par la foi est une conception nouvelle. Conception au terme de laquelle il n'est pour chacun ou chacune d'autres lois qualifiantes que la grâce. Il n'y a que la grâce. Conception selon laquelle, écoutez bien la suite, il n'est plus nécessaire de se distinguer. Conception selon laquelle il n'est plus nécessaire de se séparer, de se qualifier pour être agréé par Dieu. Et je suis complètement d'accord avec lui. Ce n'est pas le but du piétisme, de se faire distinguer devant les autres. Mais notre piété doit devenir une source de bénédiction aux autres. Et c'est cela la bonne nouvelle, chers frères et sœurs. On n'a pas besoin de se distinguer dans le sens de faire des choses pour se différencier des autres, pour que Dieu soit content de nous. Mais notre différence par rapport aux autres devient un témoignage vivant de notre foi en Jésus-Christ. Amen.